Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle a inventé un genre. Le glamour camionneur. Et personne n'a plus d'abattage qu'elle et d'énergie féroce pour faire rire perché sur des longs boutins de 12 cm avec la voix de Stallone. Un art consommé de l'absurde et cette mauvaise foi si française. Chantal Latsou est en tournée avec son spectacle On the Road Again. Mais cet après-midi, on se dit tout, ou presque.
Europe 1.
Bonjour, chère Chantal.
Bonjour.
Ça y est, elle a mis ses lunettes de compétition.
Je te vois mieux comme ça.
Alors avant toute chose, chère Chantal,
oui.
Bon, on se connaît depuis 20 ans et franchement, je le constate chaque fois qu'on se rencontre, vous êtes de plus en plus sexy, racée, sapée, branchée, tendance. Vraiment, la maturité vous va divinement. En fait, pendant que tout le monde vieillit, bah vous, vous embellissez.
C'est incroyable.
C'est quoi
comme
votre
une espèce
secret
de méduse. Les méduses, il y a certaines méduses qui sont immortelles et qui rajeunissent, en fait. Un peu Benjamin Button, si vous
oui,
voulez.
Oui, c'est ça. Voilà, donc Chantal Latsou, en fait, c'est la petite sœur de Benjamin Button.
Oui, c'est assez marrant. J'éclos comme ça, alors que les autres sont déjà écloses depuis longtemps. Moi, j'éclos.
Mais les autres se referment même.
Et oui, parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit. On se tutoie ou on se vous voit? Qu'est-ce que tu préfères?
Non, moi, si je me laissais aller, je dirais tu à Chantal.
Mais oui. Alors, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps.
Voilà,
quand même.
On se connaît, on se
mais
devine.
Oui, on se connaît depuis très longtemps.
Bon, alors, allez, on se dit tu aujourd'hui.
On se dit tu.
Bon,
et
alors.
Pourquoi te dire? C'est que le René Simon, je ne sais pas si je peux le dire tout de suite, René Simon qui était un peu visionnaire.
Oui.
Quand je suis arrivé au cours Simon, il était venu voir une scène qu'il donnait plus de cours à l'époque. Il faisait des masterclass. Il était venu voir derrière une porte. Je passais une scène avec Laurence Constant et il m'a dit « Toi, tu vas faire une carrière, mais très tard. Très, très tard. T'as le temps. Va te coucher. » Parce que j'avais déjà une voix, une autorité naturelle.
Ouais.
J'avais déjà ce truc. Alors j'ai fait des soubrettes, j'ai fait des concierges, j'ai fait des putes.
Bon, et alors j'en viens au physique, parce que tu dis quand même avec beaucoup d'humour, cher Chantal, je suis gaulée comme une abeille, ça fout le bourdon, non?
Oui, c'est vrai.
Mais non, sérieusement, tu te plais davantage aujourd'hui que lorsque tu avais 30, 35, 40 ans?
Complètement, moi je me suis même jeune fille, je me trouvais moche. J'avais toujours des amis superbes, d'ailleurs, la plus belle fille de Tourcoing. J'avais toujours de très jolies amies que les garçons regardaient. Mais moi, j'avais un truc en plus, c'est-à-dire je les faisais rire. Et j'ai toujours gardé mes vieux potes d'enfance. Mais c'est vrai que je me trouvais moche, j'étais très très complexée, très longtemps. Et maintenant, beaucoup moins en fait. Parce que quand je regarde des photos de moi jeune, je me dis, mais vraiment, je me suis gâché la vie.
Mais voilà.
On se gâche la vie avec des conneries quand même. Hein. Je te jure. Je me dis, j'étais pas mal du tout, vraiment.
Et puis alors, il y a ta voix. Ta voix dont l'actrice Julie Gayet dit que c'est la voix de Sacha Guitry. Alors, tu l'as travaillée cette voix?
Non.
Jamais. Tu n'as pas cherché à l'ajuster pour lui donner du grain de la gouaille. En fait, tu étais une jeune première avec une voix pleine de testostérone.
Ouais, voilà, c'est ça. Puis elle est chargée de mon vécu, en fait. Maintenant, j'avais peut-être pas aussi accentué quand j'étais plus jeune, mais elle a vieilli avec moi. Elle a maturé avec moi. Et c'est une voix, c'est une chance, finalement, d'avoir une voix pour
bien
une comédienne.
Bien sûr, bien sûr.
Tu vois, dans les supermarchés, si je dis à Michel, il n'y a pas de lait, les gens se retournent. C'est quand même agréable.
Ils imaginent tout de suite qu'ils sont cernés par des caméras. Bon, Chantal Latsou, il y a très peu de métiers qu'on exerce à plein temps, 24 heures sur 24. Il y a médecin, sans doute. Même en vacances, il y a toujours un moment où quelqu'un s'écrit « Y a-t-il un médecin dans l'avion ?» Bon, flic, par exemple, parce que c'est une seconde nature. À force, ils sont toujours sur le qui-vive, les flics. Mais est-ce que dans cette courte liste, est-ce qu'on peut rajouter humoriste? Parce que la drôlerie est attendue par tous ceux qui te croisent, même dans une station-service. Dès que tu te socialises, en fait, tu dois avoir la fantaisie et la gouaille de Chantal Latsou, quel que soit le contexte,
ouais,
c'est ça?
C'est vrai, en fait. Mais c'est pas forcé. C'est-à-dire que je fais naturellement, ça me coûte pas. Si les gens sont sympas, ils viennent me parler, je leur dis un petit mot d'humour, c'est naturel, en fait. Ça ne me pèse pas. Et en fait, les humoristes... les gens ont l'impression de voir un peu leur vieux pote ou leur tante. Moi, souvent, je dis « Ah, vous êtes ma tante, c'est tout à fait vous. Ou ma cousine Germaine, c'est tout à fait vous. » Donc, je fais partie un peu de leur famille. Quelquefois, même, il y a des gens qui me disent « C'est marrant, mais je vous connais, j'ai l'impression de vous connaître. » Moi, maintenant, parce que maintenant, les gens m'identifient beaucoup plus. Mais c'est toujours sympathique, voilà.
Alors, revenons à la scène. La scène érotise, même si on est une humoriste.
Oui.
Oui, vraiment.
Bien sûr. Tu peux lever n'importe qui avec la scène. Bien sûr que oui, la scène érotise, la scène, je vois comme ça, les gens sont fascinés un petit peu. Et ils me disent, oh, mais le corps que vous avez, etc. Mais je le travaille un peu, pas vraiment, mais je fais très attention. Parce que je trouve que c'est très important aussi de voir une belle silhouette sur scène. Mm-hmm. Voilà, je préfère ça. Mm-hmm. Mais oui, ça érotise un peu, je vois bien que les hommes me désirent quand même.
Est-ce que tout ce que tu racontes dans ton spectacle baptisé On the Road Again, est-ce que... En fait, à des degrés divers, est-ce qui t'est arrivé réellement ?
Oui, bah la plupart des choses en fait. C'est curieux parce que j'avais envie de vérité. Même pour j'ai l'impression que je vous plais, j'avais envie de raconter des histoires, des anecdotes de vie que je tourne en dérision, mais qui sont pratiquement vraies. Simplement, je les joue. Et ça m'amuse de raconter ces histoires. Quand je dis que j'ai passé le premier casting des valseuses à Paris et que c'était mon premier casting à Paris et qu'on m'a demandé d'enlever mon soutien-gorge et mon t-shirt, c'est vrai. Et je te jure que c'est vrai. Et quand le fait que je sois grand-mère aussi...
Et parce que tu as refusé...
J'ai refusé.
Eh bien, ça a fait démarrer la carrière de Miu Miu,
mais,
c'est ça ?
J'aurais peut-être pas eu le rôle, je le dis quand même, pauvre Miu Miu. Mais non, elle était formidable dans le rôle. Mais j'étais faire des photos d'ailleurs, un peu ringarde avec une amie comme ça, de mes seins. Mais j'étais allé porter à l'assistant qui m'a dit « Mais c'est pas des photos de tes seins que je veux voir, c'est tes seins vivre à la caméra ». Je suis parti, j'ai tout emballé.
Elle a eu peur.
Et quand j'ai raconté ça à Depardieu, il m'a dit bah, « t'as qu'à me les montrer maintenant ».
Excellent. Bon, ce spectacle, On the Road Again, une fois de plus, c'est avec l'excellent François Rollin.
Non, pas cette fois-ci. Je pense que ce nom me suit partout parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup. Et il suit dans les dossiers de presse, etc. Ce qui d'ailleurs me déplaît pas.
Tu l'as écrit seul ?
Alors non, cette fois-ci, j'ai écrit beaucoup seul. J'ai gardé des choses d'Éric Carrière et j'ai travaillé avec mon ami Ruquier.
Ah !
Voilà, mon patron et ami Ruquier, qui m'a écrit des choses qu'on a écrit ensemble et qui fait partie
du
spectacle.
Mais alors, comment ça s'est
passé ?
Vous êtes partis en vacances
Oui, on est partis en vacances, on a fait la croisière des grosses.
Non. En tête à tête pour bosser ? Non.
Pas du tout, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne m'avait jamais vue sur scène toute seule. Il me connaît, il m'a vue au théâtre, mais il ne m'avait jamais vue seule. Et il m'a vue seule, figure-toi, sur la croisière du Ponant, la croisière des grosses têtes.
Oui.
Et là, il était complètement inspiré. Et voilà, il m'a dit ça te plairait, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Voilà, on a discuté, on a un peu de temps sur une croisière. Hein. On tourne, on se croise, etc., autour du pont, donc on a un peu de temps. Et c'est là que ça s'est passé. Incroyable, quand même. Hein.
Alors, Chantal, là-dessous, il y a des comédiens qui détestent les tournées, car elles sont synonymes, très souvent, il faut bien le dire, de chambres d'hôtel impersonnelles dans des villes en province où les restaurants sont tous fermés après 21h30.
Ouais.
Or, toi, tu adores les tournées.
Ouais.
En dehors de la scène, qu'est-ce qui te réjouit tant ?
J'aime bien le fait de partir de Paris, sortir de Paris. Ça va être mon côté un peu campagnard, un peu provincial peut-être. Un peu, j'aime bien prendre la voiture, partir. Parce que c'est le travail, Paris, c'est quand même... J'adore me balader dans les rues, j'adore Saint-Germain-des-Prés, etc. Mon ancien quartier quand je suis arrivé. Mais j'aime le fait de... Allez, on m'emmène en voiture et on va se balader. Et on prend le chemin, on fait un peu l'école buissonnière, on prend des petits chemins. Si j'ai envie de sortir de l'autoroute, je peux. Tiens, un restaurant sympa, il faut y arriver avant 2h, comme avant 14h en province. Oh, une brocante. Oh, un antiquaire, il y en a de moins en moins. Mais je suis un peu à la recherche de ça.
Donc en tournée, tu as des vies parallèles.
Voilà.
On peut voir Chantal là-dessous en train de faire les brocantes.
Ouais, faire une brocante, par exemple. Les gens, ils croient que c'est une caméra cachée, quelque part. Mais j'aime bien les villes de province. Ça doit être mon côté aussi un peu campagnard, un peu...
Toi qui as grandi à Tourcoing.
Qui a grandi à Tourcoing. Et j'aime le fait de partir et j'aime la province. Et les villes de province sont de plus en plus belles, en plus. C'est vrai. Tout est nettoyé, il y a des musées, on a le temps.
Voilà, peut-être aussi parce que Paris, hélas, perd de son éclat en ce moment.
En ce moment, oui. Hein, je trouve que Paris est triste. Mmh. Paris est malheureux un peu, non ?
Paris est malheureux.
Mais il va revenir.
Ouais.
Je pense, il ne va pas se laisser faire.
On attend ça.
Ouais.
On fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Chantal là-dessous.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité, cet après-midi, la comédienne et humoriste Chantal là-dessous.
Alors, voilà, Chantal a imposé une nouvelle règle, puisqu'on se connaît depuis longtemps.
Tellement longtemps.
N'est-ce pas? On se tutoie.
On se tutoie.
Allez, on ose tout.
Mais oui,
Soyons fous.
Ça me fait drôle que tu me vois d'ailleurs. Et oh, je tutoie tout le monde. Ça casse la glace un peu.
Mais exactement. Bon, alors, cassons la glace. Voilà. Chantal. Chantal Latsou, la fashion victime que tu es juchée très souvent sur ses stilettos Louboutin, n'a jamais porté de robe quand elle était une fillette ou une adolescente. En fait, tu étais un garçon manqué, tu n'as par exemple jamais joué à la poupée. Tu étais la seule fille de la fratrie.
En fait, j'étais élevée avec deux cousins germains et mon frère. Et j'adorais leurs jeux de garçon. J'adorais, il y avait un chantier derrière chez l'usine de mon père. On allait, il y avait des bois comme ça, du bois, et on jouait dans les bois, on se cachait. Des planches de bois très hautes, c'était très dangereux. Et on se cachait, on faisait des labyrinthes, etc. J'ai jamais aimé les jeux des filles avec les poupées, etc. J'avais un ours qui s'appelait Martin Pointin. Et je jouais avec cet ours. Et je jouais aux petites voitures, aux osselets, c'est ça? Et au garage, etc.
Mais alors, puisque tu avais une maman si féminine, si élégante, si attractive, tu n'avais pas envie de lui ressembler?
Non, je n'avais pas envie d'avoir des robes. Moi, j'étais avec des grosses canadiennes. J'avais des pantalons de velours, des chaussures. J'étais un peu habillée comme un chasseur, déjà. Voilà, il me manquait le fusil. Mais j'étais habillée comme les garçons. Je voulais que des fringues de garçon. J'avais les cheveux courts, j'avais pas de seins, j'étais longiligne. Et j'allais à la piscine sans soutien-gorge, juste avec un petit slip. Et un jour, ça a poussé. Très peu, c'est sorti d'un coup. Et le maître nageur a dit à mon frère, dis donc, ta sœur, là, il faudrait qu'elle mette un petit soutien-gorge quand même.
Alors, tu as grandi à Tourcoing, dans une maison toute proche, paraît-il, de l'usine familiale de charpente métallique.
Oui.
Ton papa était un tempérament fort. Mmh. Il était président du club de foot de Tourcoing.
Oui.
Sa fille sortait du lot. Tu étais une enfant repérable.
J'étais sa petite préférée. C'est pas bien d'avoir des préférés quand on est comme ça. Mais c'est vrai que j'étais la seule
fille. Oui, mais il n'avait qu'une fille. Voilà.
Il n'avait qu'une fille, donc j'étais sa petite scrotch. Il m'appelait Scrotch, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais su. Et il me dit, oui, il disait souvent, Chantal, elle est autrement qu'ainsi. C'est curieux comme phrase, elle est autrement qu'ainsi.
C'est joli.
Il y avait un mystère en fait.
Oui.
Parce que j'ai peut-être des réactions autrement qu'ainsi, comme il disait. Et il était, j'ai eu une enfance très, très protégée, très heureuse.
Il était spectateur de toi,
ton père.
Il était
un peu spectateur, oui, je le faisais rire en fait.
Mais je viens de dire que ton père avait un tempérament fort, mais toi aussi, parce que, par exemple, lorsqu'à l'âge de seulement 7 ans, je dis bien 7 ans, on a l'audace d'entrer toute seule dans un conservatoire de théâtre pour s'y inscrire, en fait, du haut de ses 7 ans, on imagine quoi, on rêve de quoi, on espère quoi?
Bah, tu sais, ma mère, d'ailleurs, elle me disait tout le temps, j'ai eu la guerre, j'ai pas pu faire du théâtre, j'aurais voulu être actrice, etc., comédienne, et elle a dû m'insuffler ça inconsciemment. Et oui, parce qu'un jour, je n'ai pas attendu ma mère pour sortir de l'école. Et on est allés toutes les deux avec une copine. On a frappé au Centre Dramatique du Nord. Voilà. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Ben, on vient voir.
Centre Dramatique du Nord, oui. Déjà, on le lit laborieusement à l'âge de 7 ans.
Centre d'art dramatique du Nord. Et puis, tiens, on fait le mariage de Figaro en tournée. Tu veux venir, ma petite fille? On cherche des petits pages. Mais mes parents n'ont pas voulu, forcément.
Bon, tu étais une enfant aimée, une enfant protégée. Jusqu'à ce trou noir, ce vertige de chagrin, l'année de tes 15 ans, 15 ans et demi, ta maman décède dans un accident de voiture.
Oui.
Donc ton père est,
il est
tellement anéanti qu'il ne peut même plus vivre en fait, dans cette maison où tous vous étiez si heureux. Il va s'enfermer dans son usine et toi en fait en une journée, tu deviens une adulte.
Oui, c'est ça, c'est d'un seul coup, ça s'écroule quoi, la cellule familiale, tout ce qui est chaleureux, tout ce qu'on a envie d'être avec ses parents à cet âge-là, bien qu'on soit commencé un petit peu à être rebelle, mais j'étais tellement heureuse en famille, tout ça s'écroule quoi. Je vois un père très triste, une grand-mère très triste, un frère, tout ça, donc c'était un tsunami, c'était affreux, affreux.
Chantal, il a eu raison, ton papa, de te mettre en pension à Paris?
Oui, parce que ma mère, quand elle était parisienne, elle avait une amie qu'elle voyait souvent et qui avait dit ben, « Je vais prendre Chantal, elle sera dans une pension très bien à côté de chez nous. » Je ne les ai jamais vus, ils ne m'ont jamais invité à dîner, à déjeuner. Mais je suis restée 2 ans dans une pension où j'avais en fait, les autres pensionnaires avaient toutes des filles qui avaient ou des parents divorcés, qui avaient perdu un de leurs parents. Donc on s'est toutes retrouvées un peu et on faisait la fête tout le temps parce que, comme si c'était un truc, un exutoire, on était obligés de... On faisait d'une chambre à l'autre, on faisait des fêtes, des anniversaires, on était tout ensemble, on était 15 pensionnaires, pas plus.
Et puis, en fait, la passion pour le théâtre de ta maîtresse d'internat Parce que, n'est-ce pas, elle a été importante dans, oui, on va dire, le fait d'oser accoucher de cette vocation. Eh bien, la passion de cette femme, ça a ravivé deux choses en toi. Le souvenir, bien sûr, de la vocation de bien comédienne sûr. De ta maman. Oui. Et puis, soudain, l'envie furieuse de grimper sur une scène.
Exactement.
Ce que tu avais
oui.
eu l'idée de faire à l'âge
Exactement.
De 7 ans.
Exactement, oui, c'est-à-dire qu'elle nous emmenait dans tous les théâtres, aux Français, elle est au cirque, au boulevard, etc. Elle adorait ça, c'est une fille de province. Et là, elle en profitait en même temps pour aller dans tous ces endroits-là. Et le mercredi soir, comme c'était le jeudi, le jour de congé, oui, elle nous emmenait à voir les spectacles. Donc ça m'a conforté dans ce que je voulais faire. Donc après mon bac, à la fin de ces 2 ans, j'ai dit à mon père, je reste à Paris et je vais... Il dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu vas faire des études, tu vas rentrer à Lille, tu vas faire des études. Non, je vais rester à Paris, je vais faire du théâtre. Alors, il était fou d'inquiétude aussi.
Alors,
pas du tout.
Il était fou d'inquiétude et puis il est entré dans une rage folle. Mais toi, tu as tenu bon. Alors, comment fait-on à 19 ans, seul à Paris et sans ressources? Parce qu'il a décidé de te couper les vivres pour te faire revenir à Tourcoing.
Tout en guettant de loin.
Oui, bien évidemment. Mais
bien évidemment.
Comment t'es-tu débrouillé?
Eh bien, j'ai trouvé du travail avant de m'installer à Paris. J'ai trouvé du travail chez Rank Xerox, figure-toi. J'apprenais aux gens, aux personnes qui avaient des machines dans les grosses entreprises de la défense, à se servir de leurs photocopieurs. Voilà. J'ai fait un stage, il fallait une voiture, il fallait avoir sa voiture et habiter Paris. Je n'avais pas de voiture, je n'habitais pas à Paris.
Mais j'ai t'as menti, décroché ce casting-là. Mais il faut beaucoup d'autorité à l'âge de seulement 19 ans pour arriver comme ça une entreprise et dire, bon alors moi je suis celle qui vous apprend le...
J'avais un petit peu plus parce que j'avais fait le conservatoire pour le rassurer. Oui. J'étais revenue à Lille et j'avais fait des petits boulots et j'avais fait en même temps le conservatoire de Lille. Et au conservatoire de Lille, le garçon qui était professeur parisien a dit « Faut que t'ailles à Paris parce que t'as vraiment un truc à tenter, je crois que tu peux faire ce métier. Oui. » Et c'est lui qui m'a un peu encouragé à faire ça. Et donc, j'avais peut-être, à ce moment-là, Rank Xerox, je devais avoir 22 ans.
Une vieille,
c'est déjà vieille, oui.
On retrouve tout de suite Chantal Latsou.
Cet après-midi, la comédienne Chantal Latsou se confie à Isabelle Morizet. Anecdotes et moments clés, et oui, on se replonge dans sa vie, sa carrière, jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Chantal Latsou, mon invitée. Chantal, qui a décidé que maintenant, l'émission se fera uniquement au travers du tutoiement.
Exactement.
Allez, c'est parti.
Et voilà.
C'est ça?
Bon. C'est plus simple.
Mais oui. Chère Chantal Latsou.
Bien sûr.
Quand on regarde ta filmographie, on découvre qu'au tout début de la liste est écrit 1974, Le fantôme de la liberté de Louise Buñuel, la jeune femme qui passe le papier toilette.
Exactement.
Bon. Alors, tu me diras qu'il faut bien commencer quelque part, voilà. Hein. Et c'est chic, parce que tout de même, il s'agit d'un film de Buñuel dont le scénario est signé Jean-Claude Carrière. Mais tout de même, j'aimerais savoir, Chantal Latsou, à quoi pense-t-on quand on sait qu'on a du talent et qu'on participe à une scène dirigée par Buñuel avec d'immenses acteurs en intervenant juste avec du papier toilette sur un plateau?
Mais c'est merveilleux, même un petit truc avec Buñuel, c'est extraordinaire, j'en parle dans mon spectacle d'ailleurs. Et quand il m'a vu, c'est un copain assistant qui m'a dit « Mais viens un peu te traîner au studio de Boulogne ». À l'époque, c'était les studios de Boulogne sur les quais.
Ouais.
Et il y avait plein d'acteurs qui étaient là. Plein de gens qui tournaient, plein d'acteurs qui venaient déjeuner au restaurant. Et j'étais traîné, comme il m'a dit. Il m'a dit « Viens, je vais te présenter Don Luis ». Il m'a présenté Buñuel. Extraordinaire, quand même.
Alors, que dit-on à Buñuel quand on rêve d'une carrière?
J'étais très impressionné. Et quand il m'a vu direct, il a dit « Cette jeune fille doit faire un rôle dans mon film ». Et c'est comme ça qu'il m'a donné ce petit rôle. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, j'étais un petit peu fauché. Et mon banquier l'a vu. Et du coup, il m'a accepté un crédit.
C'est extraordinaire. Donc, le banquier était un fan de Buñuel. Il connaissait toute sa filmographie.
C'est extraordinaire. J'ai tourné avec Buñuel, mais ça, pour moi, je suis très fier.
Alors, René Simon, fondateur du cours Simon, comme tu nous l'as confié tout à l'heure, t'avais prévenu que, en fait, tu étais faite pour rencontrer le succès sur le tard. Quand il t'a dit ça, René Simon, ça t'a contrarié, attristé, agacé?
Je me souviens plus comment j'ai ressenti le truc, mais ça m'est passé dessus, en fait.
Tu avais quel âge?
Je vais avoir 25 ans. Je me dis, tiens, pourquoi il me dit ça? J'ai pas bien compris, en fait. Non, parce qu'après, j'ai cherché des choses. Rosine Marga, qui était la directrice de l'école, me dit, mais il faut chercher, il faut aller frapper aux portes. Va frapper aux portes, là-dessous, t'es prête, de toute façon, vas-y. Il y avait à l'époque la SFP, les grands couloirs de la SFP, avec des noms sur les portes. La première truc, je suis allé dans un bureau, j'ai frappé, j'étais très fier de moi, parce que j'étais extrêmement timide. Et j'ai des garçons sympathiques qui m'ont reçu, ils m'ont fait parler, etc. Pour m'annoncer à la fin de la conversation que c'était la vie des animaux, quand même. Ils avaient bien rigolé, quand même. J'avais frappé premier bureau, c'était la vie des animaux. Il n'y avait rien pour moi, en fait. Mais ils m'ont fait parler et vendre, etc. J'étais... Et le deuxième bureau, c'est un film porno.
Voilà. Et alors là ?
Eh bien, j'ai accepté, mais il n'avait pas dit que c'était porno. Ah oui ? Donc, à un moment donné, il y a une scène dans un château, une grande salle de château. Le metteur en scène dit « Maintenant, tout le monde à poil !» Donc, j'avais branché un copain en plus. Il me dit « Mais c'est pas... Bah oui, Chantal, t'es pas au courant. C'est tout le monde à poil maintenant, c'est
donc
un mariage. »
Donc, ta réaction ?
Et ma réaction, je dis « Non, non, attends, je vais te faire un gag. Si tu vas pas réussir à déboutonner ma ceinture, c'est drôle, ça. »
Il n'était pas du tout preneur. Pas.
Non. Mais on a assisté et mon mari est arrivé. Parce que c'était sur la route de la campagne, il venait me chercher. Et quand il a entendu ça, il est très jaloux, Michel. C'est, il est un petit peu... Attention. Et il a entendu ça, il s'y est mêlé. Et il a failli quand même casser la gueule au metteur en scène. Il a dit « Je reprends ma femme, elle ne tournera pas dans ce film. » Et il m'a emmené.
Mais que tu as eu raison de garder Michel. Ce mari incroyable qui est ton manager.
Oui.
Voilà, le père de tes enfants.
Mon cuisinier, voilà. Ma femme de ménage. Tout,
ta conscience,
mon amant,
tout,
ma conscience,
ton tout. Héros. Alors, l'année 74, effectivement, celle qu'on vient d'évoquer, tu tournes, dirigé par Buñuel, même un rôle très furtif. Tu passes le casting des valseuses et c'est toi qui prends la main, qui refuse au casting en fait de te déshabiller. Tu te retrouves malgré toi donc dans ce film érotique et ton mari t'aide à prendre la fuite. Mais 15 ans, c'est cool Chantal, avant qu'on ne retrouve ta trace dans La Classe, émission d'humour sur France 3, devenue culte, pour avoir révélé bien sûr toutes les futures stars des années 90. C'est long 15 ans quand on a du talent mais que les planètes refusent de s'aligner. Il paraît qu'un jour, tu as annoncé à tes fils et à ton mari
ouais. «
Bon, maintenant, ça y est, j'arrête. J'en ai assez, j'arrête
ouais,
ce
ouais,
métier.
Ouais. » Mes deux premiers supporters, mes deux fils, ils étaient tellement contents de me voir au théâtre. Parce que je n'ai pas arrêté de bosser, en fait. En même temps, j'ai essayé de m'occuper d'eux. C'est-à-dire que je bossais, mais il fallait que je sois libre à 4 heures pour aller chercher 4h30. Je voulais absolument être à l'école.
Pas simple.
Les faire travailler, tout faire, en fait. Multitâche, quoi. C'est-à-dire j'ai quelquefois fait sûrement des... J'ai crié beaucoup. J'étais énervé. Je voulais faire toutes les choses bien. Et c'est difficile. Mais j'ai fait du théâtre pour enfants. J'ai fait des petits rôles.
Alors j'ai appris une chose incroyable. Il paraît que tu as même, pour arrondir les fins de mois, rédigé les questions de l'émission L'Académie des Neufs.
Exactement.
Au cours de ces années-là.
Complètement. J'avais un copain, ils m'ont demandé, parce qu'un jour j'avais frappé à l'Académie des Neufs, il m'a dit bah, « Tiens, si ça vous intéresse, on cherche des gens pour écrire des questions. » Et j'avais un copain très cultivé, et on allait à Beaubourg, on cherchait les questions. C'est amusant. Et après, j'étais invité comme artiste. Mais ça m'amusait en plus.
Incroyable.
Oui, mais j'ai jamais. Je voulais toujours travailler, en fait, faire quelque chose. Ou derrière, ou devant, mais je voulais vraiment faire quelque chose. Et j'ai pas arrêté de bosser quand je regarde tout ce que j'ai fait. J'ai pas arrêté de bosser, mais.
Mais pas sur scène, pas dans la lumière.
Pas dans la lumière. Donc j'ai ramé quand même.
Donc il faut furieusement croire en son étoile, voilà. Justement, pour pouvoir être aussi patiente.
Ouais. Et un jour, j'ai eu un refus d'un casting, je ne sais plus ce que c'était, où j'y croyais beaucoup. Et j'étais chercher mes enfants à l'école, et puis j'aurais dit... Ils étaient tous les deux déguisés en fleurs, parce qu'il y avait... c'était le Mardi Gras, ils avaient des corolles autour d'un papier crépon, autour du cou, jaune et bleu ciel. Ils étaient dans ma petite Austin derrière, c'était des grands cheveux blonds comme ça, ils avaient une petite corolle sur la tête. Et j'aurais dit, ça y est, je vais vous dire un truc. Dans le rétroviseur, j'aurais dit, mes deux fans, là, je vais vous dire un truc, j'arrête le métier. Je les ai vus, mais ils se sont décomposés. Deux petites fleurs d'un seul coup qui se décomposaient. Je n'ai pas pu tenir. J'ai dit, mais c'est une blague. En fait, je voulais vraiment, parce que j'en avais assez. Mais non, j'avais tellement la rage, je voulais tellement faire ce métier. Parce que tout ce qui m'arrivait, même des petits trucs que je faisais, tout était cadeau. Le fait d'être choisi par quelqu'un pour faire quelque chose, c'était cadeau. J'étais tellement heureuse. Donc j'avais vraiment envie de continuer, d'y croire et de m'accrocher.
On fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Chantal Latsou.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Elle est à l'affiche du film Divorce Club, réalisé par Michael Youn avec Arnaud Ducré, François-Xavier Demaison et Audrey Fleurot. Et elle nous raconte ses aventures dans son spectacle On the Road Again. Chantal Latsou se raconte sur Europe 1 jusqu'à 16h. Dans un instant d'ailleurs, elle va nous parler de son mari qui est aussi son manager. Imprévisible et décalé, Chantal Latsou nous livre un bout de son histoire au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Cher Chantal Latsou, ouais. Il est rare d'entendre une femme dire « Mon mari est ma muse ». Bon, Michel, ton époux est non seulement le père de tes enfants et ton manager, mais il est ton carburant, ton inspiration. Il connaît absolument tout ton métier. Et toi, en douce, tu ne cesses de l'observer pour en faire un personnage de scène. Mais est-ce qu'il aurait pu, Michel, est-ce qu'il aurait pu faire ton métier et justement monter sur scène ?
Non, je crois pas. Quand tu dis qu'il connaît tout de mon métier, pas vraiment en fait. Il fait ça par amour, vraiment. C'est-à-dire que c'est mon manager de cœur. C'est pas un garçon qui est dans le métier comme un gros producteur, etc. Mais il avait envie d'être derrière moi, de m'aider. Il y a très longtemps qu'il a envie de s'investir là-dedans. Mais il pourrait pas monter sur scène. Quoique je le fais monter à la fin du spectacle. Je le présente et c'est plus ma victime que ma muse, en fait. Et il adore ce rôle
donc
de victime.
Donc c'est une victime consentante.
Oui, c'est une victime consentante. D'ailleurs, ses copains, quand ils viennent me voir, disent à Michel, mais dis non, mais c'est de toi dont elle parle. Pour du tout, il est d'une mauvaise foi totale. Non, mais il est. Mais je dis, mais tu veux pas produire quelqu'un d'autre ou je sais pas, t'occuper d'autres artistes. Non, ça n'intéresse pas, c'est moi qui l'intéresse. Pour me faire souffrir, peut-être aussi, pour me faire. Mais c'est vrai qu'il a. Je l'intéresse, quoi. Personne
d'autre. Mais te rends-tu compte de cette chance, de ce bonheur ?
Oui. C'est pas mal.
Vous êtes mariés depuis combien de temps ?
45 ans.
C'est fabuleux. Et vous vivez ensemble 24 heures sur 24.
Ah, ça, c'est pas non plus.
Depuis 45 ans.
C'est pas ce qu'il y a de mieux, ça. Mon premier spectacle, le précédent, j'ai l'impression que je vous plais, c'était vraiment une espèce d'exutoire. C'est-à-dire que quand l'homme est très occupé, il ferme sa boîte, il revient. Ferme sa boîte, enfin, son ancienne société. Hein,
oui.
Il revient vivre à la maison, il transporte son bureau à la maison, c'est l'enfer. C'est tout simplement l'enfer. C'est-à-dire, vous le voyez du soir au matin, il ne s'en va plus au bureau. Il reste là. Il ne revient pas le soir, harassé par le boulot. Bon, je peux lui préparer un bon petit plat, lui faire la roue, etc. Non, il est tout le temps là. Donc, on ne peut même plus lui faire une surprise. Il sent ce qu'on cuisine. C'est des petits détails, mais c'est très important. Donc, j'avais trouvé ça extrêmement difficile les premières années, les deux premières années, parce que d'un seul coup, je le voyais trop. Alors que c'est l'homme que tu as épousé il y a 45 ans. C'est le jeune homme. Est-ce que c'est encore le jeune homme que tu aimais, beau, fringant, qui était là avec son cabriolet 404 noirs intérieur cuir rouge? Non, est-ce que c'est encore lui que
oui, mais on l'aime d'une autre façon, mais
on
plus profonde encore.
Et là, revoir ce bonhomme qui est là au milieu du salon, quelquefois, ça, t'as plus envie, quoi.
T'as envie de repartir en tournée.
Oui, t'as envie, tu te dis, ben, je vais écrire un spectacle, je vais rire de tout ça. Je vais rire de tout ça et ça va peut-être me décontracter. Et en fait, oui, parce qu'en fait, les femmes dans dames, elle venait me voir après le spectacle, elle me dit, mais c'est exactement mon mari, je peux plus supporter non plus, il est trop là.
Pauvre Michel.
Il est trop
mais
là.
Cherchez
quand vous voyez trop les gens, vous les supportez plus en fait. Alors que j'adore voyager avec lui, c'est un merveilleux camarade, compagnon quand on voyage, il est curieux de tout, mais je ne le supportais plus. Et donc là, d'avoir fait ce spectacle, ça m'a sauvé la vie, ça a sauvé notre couple.
Mais alors ce pauvre Michel, il faut être quand même très amoureux de sa femme et très admiratif d'elle quand on est l'époux d'une star dans la lumière pour ne pas tomber dans la frustration du prince consort. Parce qu'il est un petit peu le prince consort qui marche derrière la reine d'Angleterre.
Oui, mais il est très bien vu. Tous les camarades, ils aiment beaucoup Michel. Ils pourraient faire Michel à moi souvent d'ailleurs. Et bien Michel, quand je suis toute seule, ben Michel n'est pas là. Ben oui Michel. Il est très accepté.
Dans la vie vraie, c'est lui la star.
Ah oui, complètement. Et souvent, d'ailleurs, à la fin du spectacle, tout le monde crie « Michel, Michel !» Il arrive sur scène en me filmant. Donc, mais c'est un garçon qui est très sympathique, en fait. Il m'énerve énormément, il est quand même un petit peu dur avec moi, on s'engueule beaucoup, mais c'est vrai qu'il plaît beaucoup. Et quelquefois, d'ailleurs, ça, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il me prend mes vannes. Alors ça... C'est un truc où là, il me prend mes anecdotes. Et il les raconte, et il les raconte très mal. Il me les nique. Donc ça, si tu entends
c'est
ça, Michel,
délicieux.
Je n'aime pas du tout ça. Voilà.
C'est délicieux. Bon, Chantal, j'imagine qu'il était présent, Michel, ce soir où, en pleine représentation d'une pièce de Feydeau que tu jouais avec Martin Lamotte au Théâtre de la Michaudière, une gigantesque panne d'électricité plonge soudain le théâtre dans l'obscurité. Alors, tous les comédiens quittent la scène, sauf... Martin Lamotte et toi, qui de façon complètement surréaliste, pendant 20 minutes, allez improviser. Non seulement le public n'a pas quitté la salle, oui. Il aurait pu, parce que quand même c'est long, 20 minutes dans
Bien
le noir.
Sûr.
Mais parmi les spectateurs, il y avait l'une des plus grandes légendes de Hollywood qui a adoré cette soirée inattendue.
Complètement, oui. Tu vas me souffler le nom parce que je me souviens. Je vois tellement de monde.
Bon, oui, elle est tellement habituée à être acclamée, ovationnée par.
Tu vois.
Allez, George Clooney, Brad Pitt. Non, c'était Dustin Hoffman.
Et qui était là. Et il a trouvé ça extraordinaire. Et il avait voulu voir un Phédo à la française, en fait. C'était vraiment ça. Pour lui, ça correspondait à la culture française. Et il a regardé ça, il était mais sidéré, quoi. Et sidéré, et après, il est parti. Elle est partie avant la fin. Et il a dit aux ouvriers, vous leur direz bien que ça a été fantastique. Et c'est vrai qu'avec Martin, on a improvisé. T'as pas payé l'électricité. Non, mais c'est toi qui devais le payer. Moi, c'est pas moi à payer. Tu m'emmerdes. On a fait une scène de ménage, en fait.
Non, mais c'est parce que vous étiez dans l'obscurité totale. Et
oui.
Puis,
on a mis des bougies.
C'est pas vrai.
Si, on a mis des bougies, les gens adoraient.
Mais vous êtes restés tous les deux. C'est-à-dire que toute la troupe avait pris la fuite.
Les gens riaient. Petit à petit, tous les acteurs sont revenus. Parce qu'un acteur de théâtre qui a un texte. Ici, il sort de son texte, il ne sait plus quoi faire sur scène.
Sauf toi.
Oui, et Martin aussi vient du Café Théâtre, Martin. Et donc, on a su quoi faire. On les a tenus. Sinon, il fallait rembourser tout le monde.
Mais personne ne savait quand allait revenir la lumière. Non. Et improviser. Mais improviser, c'est-à-dire en gardant la trame de la pièce, en jouant une pièce dans la pièce.
Oui, on a fait une espèce de scène de ménage. Une scène de ménage, parce qu'on était un couple en même temps dans la pièce. Moi, j'étais Madame Pinglet, et lui, c'était Monsieur Pinglet, qui me trompait, etc. Donc, je lui ai fait une scène de ménage, et c'était très marrant, quoi. Et après, petit à petit, les uns après les autres, tous les acteurs sont revenus sur scène, les gens adorent.
Incroyable.
Ça. Et la lumière est revenue.
Et la lumière a rejailli.
Formidable, ouais. Ah ouais.
Alors, Dustin Hoffman a adoré, il est ton fan pour la vie, mais il paraît qu'un grand monsieur du théâtre français, lui, a hurlé au scandale.
Oui.
À cause de ton improvisation.
Oui, Weber. Ouais.
C'est pas vrai.
Si, je le dis. Il a trouvé ça scandaleux. Si je le vois, je lui dirais. Parce qu'il en rirait. Mais peut-être que lui, il était peut-être trop dans le comédien, le texte, Phédo, le classique, etc. Et peut-être que c'était abîmé, la pièce de Phédo. Mais est-ce qu'il valait mieux que les gens soient frustrés, remboursés, sans sachant pas s'ils allaient peut-être revenir ou pas pouvoir revenir?
Parce qu'après, vous avez repris la trame, tous sur scène,
complètement
tel que Phédo avait écrit le texte.
Il a trouvé qu'on abîmait Phédo, quoi. Mais je pense pas. Je pense que Phédo aurait aimé.
Alors, tu as tourné dans, j'ai fait le compte, 9 films ces 4 dernières années. C'est beaucoup pour quelqu'un dont le terrain de jeu, n'est-ce pas, est la scène.
Ouais.
Rester à jamais imprimé sur la pellicule, c'est important quand on pratique justement cet art éphémère.
Mais oui.
Du one woman show.
Oui, parce que bon, les one man show, tout ça, c'est la scène, c'est faire mieux qu'hier et moins bien que demain. Et c'est ça que j'aime aussi. Cette espèce de challenge, comme ça, cette espèce de peur qu'on a derrière le rideau, cette espèce de. Dès les premiers rires, hop, ça vient, ou ça vient pas, mais en général, ça vient souvent. Mais ben, ça, on est imprimé. C'est-à-dire qu'on est. On est, ça y est, on est dans un film avec d'autres. Mes petits-enfants regarderont les vieux films dans lesquels j'ai tourné. C'est une espèce de. Ça, voilà, on reste dans la pellicule. C'est ça.
Tu as combien de petits-enfants ?
2 petits-enfants.
Qui ont quel âge ?
4 ans et 2 ans. Georges et Gabriel.
Waouh !
Georges, 4 ans, et Gabriel, 2 ans. Malheureusement, ma fille me les a piqués. Elle est partie vivre en Hollande. Cette petite pétasse.
Mais c'est loin, la Hollande !
C'est pas loin, c'est 3h30 de train. Moi, j'y vais souvent, une heure d'avion.
Donc, du coup, tu prends souvent le train ou l'avion ?
Oui, je prends ça. J'y vais 3 fois depuis septembre. Et elle est revenue déjà 3 fois aussi. Mais c'est beaucoup mieux parce que quand elle vient, c'est 8 jours, par exemple. Donc, on reste ensemble 8 jours.
Oui.
C'est plus profond. On approfondit plus les rapports.
Alors, puisque on évoque le nord de l'Europe, je voudrais rester sur le nord de la France. Comment se fait-il, Chantal, qu'une fille du nord, comme toi, une vraie, qui s'est causée pas toi avec l'accent ch'ti, comment se fait-il que tu ne te sois pas retrouvée au générique du film de Danny Boone, Bienvenue chez les ch'tis?
Ben, j'aime beaucoup Danny Boone, je crois qu'aussi on s'apprécie beaucoup, je cultive pas mon accent du Nord en fait, parce que quand ma mère était parisienne, elle luttait contre ça.
Ah,
elle supportait, mon père avait l'accent du Nord, il parlait comme ça, j'étais un entrepreneur, il parlait avec ses ouvriers, etc. J'étais vraiment un gars du Nord, du bâtiment, mais il avait vraiment une espèce de charisme du Nord, très généreux, très bon vivant... Et il parlait un peu patois et avec comme ça l'accent du Nord. Et ma mère n'aimait pas ça. Elle voulait pas le corriger. Mais quand on voulait l'ennuyer avec mon frère, eh bien on parlait comme ça. Hein ? Chapeau, quoi, que je te fais ? Ah, ne parlez pas comme ça, les enfants, c'est affreux, mais tu te rends compte, tu vas te retrouver, tu vas parler comme ça quand tu vas être jeune fille, tu ne trouveras jamais de mari.
Elle trouvait que ce n'était pas sexy.
Non.
Bon, le teasing, Chantal Latsou, le teasing en ch'ti pour dire aux auditeurs qu'on se retrouve tout de suite, ça donne quoi ?
Eh bien, te pars pas tout de suite dans la radio, te reste à côté parce que je reviens.
C'est parfait. À tout de suite avec Chantal Latsou.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1. Aujourd'hui, les dessous de Latsou. Et oui, Isabelle Morizet retrace le parcours intime et professionnel de la comédienne Chantal Latsou.
Chère Chantal, bon, Yoda, tout le monde sait que c'est le nom du maître Jedi dans Star Wars qui enseigne à Luke Skywalker comment utiliser la force. Mais Yoda, c'est également le surnom que tu as donné, surnom familier tendre, que tu as donné à ton mari.
C'est-à-dire
pour quelle raison ?
Oui, je fais parler mon petit-fils. C'est très important. Comment vont nous appeler les petits-enfants ? Pas mamie, papy, papère, ma mère, tout ça. Donc, il paraît qu'il faut donner d'abord, se donner un nom pour que les petits-enfants vous appellent comme vous voulez. Ouais, c'est une grand-mère qui m'a dit ça, une amie qui m'a dit, tu comprends ? Parce que moi, je n'ai pas fait ça, il m'appelle Mamie Piscine, parce que j'ai une piscine. Donc, Mamie Piscine, ça fait bizarre quand même. Il faut que tu te choisisses un nom. Et donc, j'ai inventé, à un moment donné, que Michel se faisait appeler Yoda,
donc
dans
il
son
est,
petit-fils.
Il est obligé de, en fait, incarner l'autorité.
En fait, il s'appelle Pop, parce qu'on l'a laissé choisir les petits-fils, c'est Pop, 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 voilà. Il s'appelle Pop et moi, Mam. Voyez, il nous appelle comme ça dans la vie. Mais j'ai inventé.
C'est un petit côté anglo-saxon, même.
Et j'ai inventé ça dans la vie parce que un maître, un Yoda, c'est un homme d'un certain âge qui est un peu dégarni ici, comme ça. Vous voyez. Et donc dans mon public, souvent, je vois vraiment ça brille. Donc il y a beaucoup de maîtres Yoda.
Il y a beaucoup de maîtres Yoda parce que quand même le Yoda, il a un peu une tête de Gremlins avec de grandes oreilles.
De grandes oreilles. Et j'en voilà. Vois comme ça qui ont des oreilles qui dépassent avec des crânes lisses. Et ce sont des Yoda pour moi. Et comme Michel aussi se dégarnit un petit peu.
Pauvre Michel.
Pauvre Michel,
mais
il en prend plein la tête.
Plein la tête.
Mais je lui dis, mais des implants, fais quelque chose, fais un lifting.
Elle est féroce.
Elle est très
bon,
dure.
Justement, ouais. Chantal, cette énergie féroce qui est la tienne, en tout cas, tu sais si délicieusement mettre en scène, elle vient d'où ? C'est un bouclier ?
Peut-être, oui. Peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire que... C'est une espèce de challenge. J'aime que mon interlocuteur rigole. Pour moi, c'est gagné, quoi. C'est forcément la sympathie vient. J'ai envie de te faire rire. J'ai envie de faire rire les gens que je rencontre. C'est un truc, c'est mon sport, en fait, journalier. Et à force de vouloir faire ça tout le temps, eh ben, c'est devenu naturel. Tu vois
et puis peut-être aussi que... À force, comme tu dis, on ose de plus en plus.
Oui.
Je sais que, par exemple, sur scène, tu souffles le chaud et le froid. D'ailleurs, tu dis, je suis douce et dure à la fois.
Oui.
Avec l'âge, justement, on ose davantage.
Oui, parce que maintenant, après, on n'a plus de... on ose dire les choses. Pff, on s'en fout un peu, finalement. La timidité, tout ça, j'ai toujours ce côté un peu... qui vient de mon éducation, un peu timide, un peu réservé. Mais j'ose beaucoup plus maintenant. J'ai beaucoup moins peur. C'est l'âge. J'espère que ça va durer encore longtemps.
J'ignorais, chère Chantal, que Charles Aznavour était un ami avec lequel souvent tu allais déjeuner.
Oui.
Comment était-elle née, cette amitié ?
J'étais fan et puis je lui ai montré, je lui ai dit, j'allais voir ses spectacles et on m'a dit aussi qu'il est venu au théâtre, j'ai invité au théâtre dans une pièce de théâtre que je jouais il y a quelques années, je ne sais plus ce que c'était, Les Amazones, je crois, oui. Et il est venu, on a sympathisé, et il est venu voir après mes One Woman Show, et il a adoré, lui qui n'aime pas sortir, il est resté 2 heures dans ma loge à Bobino, on a bu du champagne, enfin, et on a sympathisé comme ça, et il m'a invité à déjeuner. Et...
Mais alors vous parliez plus de la vie ou de ce métier quand vous déjeuniez en tête à tête, toutes les deux, voilà.
On n'a jamais été vraiment tête à tête, il y a toujours quelqu'un avec nous, mais il adorait. On l'écoute parler, Charles Aznavour. Et il parlait de son métier, de sa vie, de l'Arménie, tout un tas de choses. Et moi, j'étais un petit peu dans mes petits souliers. J'étais vachement fière d'être avec lui en même temps. Et puis, il m'avait essayé. Enfin, il m'avait essayé. Il avait essayé. Un jour, il m'a dit, je t'emmène en studio.
La voyeuse.
Oui.
Elle adore provoquer.
Il m'a dit, viens, je t'emmène dans un studio. On est allé sur le studio qui est sous le palais des congrès, porte de Maillot. Et il m'a dit, je voudrais que tu chantes.
Surtout qu'il y avait du beau monde
oui,
ce jour.
Oui, déjà j'avais très peur d'aller dans ce grand studio plein de chanteurs, enregistres et j'étais déjà j'avais la voix un petit peu coupée, la bouche sèche. Et à côté, dans le studio d'à côté, il y a quand même Mick Jagger qui a tenu à saluer Charles Aznavour. Donc il est venu dans le studio, il m'a écouté chanter.
Et là, tout à coup, il fallait être à la hauteur de Marianne. Voilà, à la hauteur de Marianne Faithfull.
Exactement. Donc, c'était pas fait pour me rassurer. Et j'étais entouré de ces deux grands messieurs, quoi. C'était du jour au lendemain. C'est-à-dire, d'un seul coup, tu vas enregistrer une chanson, tu fais un essai tout de suite avec les deux plus grands.
Mais c'est quand même incroyable d'être l'inspiratrice de tout ça.
Ah oui, oui, oui. C'est beau, c'est un beau souvenir, mais j'avais très peur. J'avais une trouille, j'ai dit pourvu qu'il ne réserve pas un studio demain, après-demain. Non, il devait
mais
partir.
Mais ces phrases qu'il avait jetées sur le papier, en fait, elles tournaient autour de quoi
chanson. C'était sur une femme abandonnée. Une femme abandonnée par son mari qui lui reprochait des choses. Mais ça devait se faire, hein, parce que c'était à moitié one man, à moitié chanson. Mais c'est le fait de devoir chanter des chansons de Monsieur Aznavour, c'est tellement beau ce qu'il chante que moi, je voulais chanter comme lui. Mais c'était vachement
alors
dur.
C'est incroyable parce qu'on vient de dire qu'avec l'âge, on ose oui. le lâcher prise.
Mais là, je me sentais toute petite fille. Surtout que chanter, c'est, je me sens pas chanteuse. Quoi. Autant sur une scène, je suis chez moi, je fais ce que je veux dans une pièce de théâtre, je suis à maison, comme on dit dans le Nord, à baraque. Mais chanteuse, je me sens pas capable de faire ça. Je les admire. Donc je reste toute petite par rapport à ça.
Ce sera pour la prochaine vie.
D'accord.
On retrouve tout de suite Chantal Latsou.
Parcours et projets, anecdotes et confidences, Chantal Latsou se raconte pour quelques minutes encore sur Europe 1, au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Cher Chantal, le dernier spectacle d'humour que tu es allé voir, c'est lequel ?
Le dernier spectacle, je crois, c'est Gaspard Proust.
Oui.
Il me semble. Tu veux me demander ce que j'aime comme humoriste ?
Eh bien, je voudrais savoir si d'abord tu es bon public ou il faut te surprendre.
Je suis très bon public, mais je ris pas forcément. Je ris d'un seul coup 10 minutes après. Parce que ce qui m'énerve quand je vais voir un spectacle
dans une
salle, c'est que j'ai peur de pas entendre le texte de l'humoriste qui est sur scène, parce que les gens rient quelquefois longtemps, etc. Et d'un seul coup, ça me... J'imagine de ce qu'il a inventé, de ce qu'il a dit, etc. Et je ris après. Donc c'est toujours un peu difficile. Mais j'aime bien, oui, j'aime bien les gens qui vont loin et qui disent des choses.
Effectivement, Gaspard Proust, voilà. C'est un humour radical. Alors voilà, Blanche, cette nouvelle génération de filles humoristes qui donnent de la voix dans le sillage, oui. J'ai envie de dire, de Blanche Gardin, elles t'épatent.
Oui, elles m'épatent. En même temps, elles ont pas forcément inventer ce qu'elles font, on était là avant, hein, quand même. D'ailleurs, j'ai un sketch là-dessus sur les jeunes humoristes. Et ça, c'est une surprise, je ne peux pas en parler, mais c'est vrai que je parle des jeunes humoristes.
Voilà. Juste, qui commence comment ?
Qui commence, j'aime bien là, les jeunes humoristes qui espèrent que je fasse mes adieux. Hein ? Si je pouvais faire mes adieux, c'est la fin de concurrent en moins. Bah oui, c'est la fin du public en plus. Voilà, ça, c'est le début de mon sketch.
Toi qui triomphe désormais sur les plus grandes scènes de France, tu as fait, je le rappelle, le Palais des Sports à Paris, t'es une rockstar. On parlait tout à l'heure de Mick Jagger.
Alors ça,
mais
c'est un
désir
de mon mari.
Voilà. Ah oui, 3 soirs de suite, il faut pouvoir le remplir.
Oui, c'est-à-dire qu'il a fait, il avait vu Ray Charles, là, il y a très longtemps, quand il était jeune homme, et il a toujours eu le fantasme de me voir à la place de Ray Charles. C'est tout simplement ça.
Ce n'était pas ton rêve à toi, le Palais des Sports à Paris.
Moi, je me dis, on va refaire peut-être le Casino de Paris, que j'aime beaucoup, qui est un musical très chaleureux, le Casino de Paris, que les humoristes aiment bien. Mais dis non, on l'a déjà fait 8 jours, c'est bien, je voudrais que tu fasses un éclat, fais le Palais des Sports. J'ai vu Ray Charles, je trouve que ça te va bien. Voilà.
Alors, la première fois que tu as mis les pieds sur cette scène de légende.
Oui. Curieusement, je me suis sentie très bien sur cette scène. Incroyable. Elle a des ondes. Elle n'est pas seulement métallique, elle est vraiment chaleureuse. Elle est en rond comme ça.
Oui.
Et c'est un vrai bel endroit pour jouer. J'ai adoré cette salle.
Alors, je disais que, effectivement, maintenant tu t'offres les plus grandes scènes de France, de Belgique, de Suisse. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que tu as fait ton tout premier Olympia l'année de tes 66 ans. C'est rare de décrocher tous les triomphes sur le tard dans cette société qui distille en permanence le jeunisme.
Oui, mais je crois que je n'ai pas d'époque, en fait. Je me balade un peu partout. Je vais aussi bien chez Hanouna que chez toi, que chez Ruquier, que chez... Voilà, je me balade, je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes aussi dans mon public que j'éclate. Il m'a dit, mais vous prenez combien de joints par jour ? Non, c'est greffé. À mon avis, ça m'est greffé à la naissance. Et je me rends compte que j'ai un public très varié.
De quoi rêves-tu, en fait, aujourd'hui, Chantal ? Est-ce qu'il y a des défis culottés qui te tentent ?
Peut-être maintenant une comédie musicale, puisque Aznavour m'a rassuré pour me dire « je peux chanter », c'est quand même des histoires qui vous rassurent, mais plus tard encore, ça mûrit un peu dans votre tête. Comme je chante un petit peu sur scène, je fais 2 couplets d'une chanson, et que ça me ravit, et qu'en même temps j'y arrive, et que j'entends la musique, chose que j'entendais pas du tout quand j'ai fait des essais avec Charles, et maintenant j'entends, on m'a un peu appris. Je me dis, mais oui, effectivement, ça m'amuse et, ça, et c'est très plaisant de chanter parce que ça fait du bien, ça monte dans la tête, c'est très agréable de chanter. C'est pour ça que les gens adorent la chorale, parce que ça donne du bonheur dans la tête, ça éclaire tout ça. Et j'ai envie de chanter, maintenant, j'aimerais
donc bien faire... Donc Aznavour a quand même semé ce désir-là.
Exactement.
Voilà.
Il a semé ce désir et je l'embrasse. Voilà.
Tu as une formule épatante pour résumer ta carrière. Tu dis... Je suis lente, je vais le dire beaucoup moins bien que toi, mais bon, je suis lente, je suis montée doucement, je suis un diesel, et j'ai eu du plaisir à regarder le paysage, la route était agréable, maintenant, faut pas caler.
Non.
Qu'est-ce qui te fait peur ?
Ben, j'aimerais continuer le plus tard possible, être en forme surtout, le plus tard possible, et être toujours dans ce dynamisme, de, et toujours être émerveillée, et toujours être curieuse de tous les projets, c'est ça qu'il faut tenir.
Mais un artiste ne prend jamais sa retraite. Il va jusqu'au bout de lui-même, n'est-ce pas ? Jamais un artiste ne renonce spontanément à descendre de scène. Et d'ailleurs, Charles Aznavour en est la preuve. Tu dis que, en fait, c'est incroyablement régénérant, la scène. C'est un défi qui te recharge en électricité, en ondes, en énergie.
Complètement. Dès que les gens sont là, dans la salle, d'ailleurs en coulisses, je les entends comme ça et... Ça monte, ça monte, ça monte, et mon énergie monte. Et le fait des premiers rires te donne vraiment de l'énergie. Ça te remplit de, je sais pas, d'adrénaline, de tout un tas de choses.
C'était vraiment
sensationnel. On s'est bien amusé, c'est un plaisir avec toi, franchement.
Cher Chantal, je t'embrasse. Que la route soit belle. À très très vite.
Merci.